Je souhaiterais déjà me présenter rapidement. Donc, je vous propose aujourd'hui, comme vous le voyez au tableau, ce que j'appelle une sensibilisation au développement durable, plus qu'une conférence. Donc, quelques mots. Je suis sociologue, diplômé de troisième cycle à l'École des hautes études en sciences sociales. Je travaille aujourd'hui dans une grande entreprise du CAC 40, à la direction du développement durable. Et je me suis intéressé notamment à des sujets liés à tout ce qu'on appelle la thématique banlieue, la thématique religiosité. J'ai écrit un certain nombre d'articles auxquels je peux vous renvoyer si vous êtes intéressé. Et j'ai beaucoup enseigné, donc j'ai été surveillant longtemps dans les lycées d'Île-de-France. Donc ça me rappelle un peu l'ambiance qu'il y avait dans les lycées parisiens. Donc je suis content de vous retrouver parce que je pense que c'est des circonstances toujours intéressantes de rencontrer les lycéens parce que vous ne le savez pas ou vos professeurs vous le disent mais vous n'écoutez plus. Vous êtes le monde de demain. Donc aujourd'hui, c'est une plongée un petit peu dans une sensibilisation sur le développement durable que je vous propose. Alors, je dirais peut-être pour introduire le sujet, vous voyez tous bien le tableau, que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc vous avez peut-être déjà entendu ce proverbe. On l'attribue souvent à Saint-Exupéry, un peu par erreur, parce que c'est en fait un proverbe d'Indien, Indien d'Amérique du Nord, je crois, avec l'idée, si vous connaissez un petit peu les cultures d'Amérique du Nord, c'était des cultures qui étaient un petit peu en avance sur, on va dire, ils avaient une vision un peu écologique. Ils considéraient que les plantes, les animaux étaient nos frères, nos sœurs, et qu'il fallait utiliser uniquement ce dont on avait besoin. Vous avez peut-être tous vu dans ces films où ils sont souvent les méchants. Donc ces peaux rouges qui s'excusent auprès du frère bison, du frère ours. Donc ils ont une vision comme ça très écolo depuis toujours. Et donc ce proverbe, je pense qu'il est aujourd'hui très très d'actualité et il veut bien dire ce qu'il veut dire. En l'occurrence que aujourd'hui, lorsque l'on vit, on est quelque part déjà en train d'emprunter aux générations futures un certain nombre de ressources. Alors on va le voir comment. Et pour ça, il faut revenir un petit peu à quelques petits préceptes et quelques événements du passé que vous avez dû voir en histoire. Je pense que, genre, je ne sais plus où on voyait ça, la révolution industrielle. Revenons à la révolution industrielle, parce que c'était une des grandes mutations de l'humanité. Vous savez que pendant la révolution industrielle, à partir du début du 19e jusqu'au début de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, il y a eu toute une avancée technologique très importante avec ce que je vous ai indiqué ici, industrialisation, urbanisation, les gens ont quitté les campagnes pour venir vers les villes, de plus en plus d'industries qui recrutaient, pas uniquement depuis les campagnes, mais depuis un certain nombre de pays à l'étranger également. Beaucoup d'immigration, on a eu dans notre pays plusieurs vagues d'immigration de différents pays européens. Et cette révolution industrielle, elle s'est caractérisée par industrialisation d'une part, mais aussi l'urbanisation et ce qu'on appelait la production de masse. Et cette révolution industrielle, elle s'est notamment caractérisée par une non-considération de l'usage des ressources, ce que j'ai appelé un usage immodéré et irréfléchi des ressources naturelles. On ne se posait pas trop la question, on ouvrait des usines, on produisait des voitures, on construisait des villes. Et on ne se préoccupait pas trop de savoir quel était l'impact sur l'environnement. Ça s'est caractérisé également par une hausse de la population. Cette hausse de la population, pour vous donner quelques chiffres, par exemple, pour que vous vous rendiez compte, on était au XVIe siècle 500 millions sur Terre. Et si je vous demande combien on était en 1970, qu'est-ce que vous diriez? 250 ans plus tard. On passe de 500 millions à 3,6 milliards. Donc ce taux, c'est à peu près un taux de 0,3% par an d'augmentation. Et on voit que depuis le début du XXe siècle, cette progression, elle est de plus en plus rapide. Et en fait, on double la population aujourd'hui tous les 30 ans à peu près. Ce qui veut dire qu'à cette vitesse, on peut s'attendre à ce qu'au milieu du siècle, on soit à 10 ou 12 milliards d'habitants sur la Terre. Donc d'ici le milieu du siècle ou la fin de ce siècle. Alors, cette urbanisation, c'est effectivement ce que je disais, l'exode rural, c'est la concentration dans les villes, c'est la non-considération de la prise en compte de l'environnement. Et petit à petit, on commence à voir, à partir notamment des Trente Glorieuses, donc 1945 à 1970, 1975, on commence à ressentir les effets sur la nature de cette industrialisation, de cet usage des ressources, de l'eau, du gaz, du pétrole, des mines, du charbon notamment, qui ont été des grosses industries, qui ont fait tourner les usines et qui ont participé à cette révolution industrielle. Donc cette dégradation de l'environnement, elle s'est caractérisée par la désertification, de la déforestation. On parle beaucoup aujourd'hui, vous en entendez peut-être parler, de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, qui est une des plus grandes forêts, on l'appelle aujourd'hui le poumon de la Terre. Elle, il y a un taux de déforestation qui est aujourd'hui d'à peu près 15 à 20% par an. Donc ce qui veut dire que voilà, cette révolution industrielle, elle s'est caractérisée par notamment un vrai impact sur l'environnement, et on a commencé à le découvrir avec les premières catastrophes qui se sont produites dans les années 70. Alors les premières catastrophes, ça a d'abord été économique, avec les chocs pétroliers, mais très rapidement on va voir que il y en a eu d'autres qui ont été beaucoup plus importantes. Alors c'est l'interrogation collective qui commence à apparaître dans les années 70. Là on se dit qu'effectivement depuis la révolution industrielle on ne s'est pas trop posé de questions. On a été foré pour trouver du pétrole, trouver du gaz, trouver des nappes phréatiques. Et puis petit à petit on commence à découvrir qu'il y a des dommages liés au développement industriel, des dommages liés au développement économique qui se fait au détriment de pays qui sont au sud, par exemple. On voit l'impact sur l'écologie, notamment la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols. Et donc les enjeux à long terme, et c'est pour ça qu'on parle de développement durable, c'est une prise de conscience dans les années 70 de ce qu'on a appelé l'écologie politique. Donc comment l'écologie, qui était plutôt quelque chose qui faisait partie, j'allais dire, d'une certaine tradition, notamment dans la culture paysanne, de vivre à la vitesse des saisons, de respecter un petit peu la nature, etc. Comment petit à petit cette conscience devient, intègre la sphère politique, et comment il y a des militants politiques qui commencent, donc au nom de la défense de l'environnement, à s'investir dans la politique. Donc il va avoir un grand impact, puisque la plupart des grosses associations qui existent aujourd'hui, Greenpeace, les Amis de la Terre, si vous les connaissez, etc., c'est vraiment dans les années 70-80 qu'il y a eu cette prise de conscience et qu'ils sont apparus. Alors, développement durable, quelques chiffres, donc je vous en ai mis quelques-uns si vous les voyez. 850 millions de personnes aujourd'hui, soit à peu près 1 sur 7 dans le monde, qui souffrent de la malnutrition. 12 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2050. Ou 2080. 50% des 6 milliards d'habitants sur Terre qui subsistent en moyenne avec $2 par jour. Donc 50% de la population sur Terre. 10% de la population du globe consomme 70% des biens et des services. Donc voilà, je vous ai mis un certain nombre de chiffres. Peut-être un qui est plus proche de vous. Alors je passe sur les 500 millions de voitures qui sont attendues en Inde dans les 5 à 10 ans. Donc il y en a déjà énormément, mais avec, je ne parle pas non plus de véhicules qui doivent apparaître en Chine si la crise se résorbe rapidement. Donc un chiffre qui va vous parler un petit peu, c'est le dernier, 2000 morts de plus qui ont été constatés entre 1983 et 2003 suite à la canicule en France. Donc voilà la canicule qui a été liée, selon les spécialistes, clairement à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Alors, la nature, la protection de l'environnement, quand on parle du développement durable et qu'on pose la question aujourd'hui de savoir, au sein des Français notamment, quand on fait des sondages de trottoir, dits de trottoir, on constate qu'il y a 57% des Français qui ne savent pas ce que c'est que le développement durable. Et quand on leur demande quelle source d'information, à votre avis, dit la vérité en ce qui concerne la protection de l'environnement, vous voyez que... Alors le chiffre sur les enseignants et l'école n'est pas présent, mais c'est 5%. Donc je ne sais pas pourquoi il a disparu. Mais voilà, l'école, l'université, l'éducation nationale, on accorde un relatif crédit à ce qui est dit. Alors que vous voyez, par exemple, c'est 3% pour les pouvoirs publics. C'est 1% pour les syndicats. C'est 1% pour les partis politiques. Quasiment personne ne croit à ce que racontent les partis au sujet de l'écologie ou de l'environnement. Et l'industrie zéro. Donc c'est quand même assez, assez flagrant. Alors, définition du développement durable, on va commencer par cela. Avant de passer au schéma, le développement durable, c'est une définition qui date de 87, qui dit que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Vous voyez qu'on est très proche du proverbe initial, du proverbe indien. Alors, le développement durable, on le réduit souvent à l'écologie, alors que c'est en fait trois sphères très importantes et qui se complètent. Comme vous le voyez au tableau, c'est ce qu'on appelle les trois piliers du développement durable. Les trois piliers du développement durable avec celui dont on parle le plus souvent, effectivement, l'écologie, qui se décline en voilà toute la thématique de changement climatique, de réchauffement des températures, de la gestion des ressources naturelles, que l'on parle du gaz, de l'eau, du pétrole, mais également des forêts, également de la biodiversité. Il y a un volet économique. On va fermer ça. Voilà, volet économique qui touche aux capacités productives, mais également aux droits de l'homme. Vous avez entendu parler de cette grande firme qui produit du matériel de sport, Nike, pour ne pas la citer, hein, qui faisait travailler, qui était alpaguée parce qu'elle faisait travailler des enfants dans des pays du Sud. Voilà, et qui a eu un très très mauvais écho, et ça a joué sur son image, et elle est aujourd'hui en train d'essayer de travailler là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on fait un lien entre capacité productive et droits de l'homme, mais également innovation. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un problème, notamment en termes de carburant, les gaz rejetés dans l'atmosphère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va proposer en échange, en remplacement des carburants, des moteurs dits thermiques des voitures. Et le dernier pilier qui est très important et à mon avis le plus important, c'est le pilier social. Parce que sans les humains, on ne fait rien. Et le pilier social, c'est effectivement tout le volet lié à l'insertion, lié à la lutte contre les inégalités. Alors que ce soit des inégalités ici à Clamart parmi des gens qui recherchent un emploi, autant que les inégalités entre le Nord et le Sud, d'essayer d'avoir des cohérences. Aujourd'hui, le gouvernement a par exemple créé un ministère de l'immigration, mais qui s'appelle aussi du co-développement, parce qu'on a compris que l'immigration sans le développement dans les pays d'origine, ce n'était pas grand-chose. Et puis, la santé des populations. Donc voilà, sur ces trois piliers, vous voyez que lorsqu'ils s'interpénètrent, on est entre l'écologie et le social dans ce qu'on appelle un environnement vivable, un environnement viable entre l'écologie et l'économie, et l'équitable entre le social et l'économique, on va en parler. Alors, les dates clés du développement durable, je vais passer rapidement. Retenez peut-être deux dates, celle de la conférence de Rio, qui a été aussi appelée donc premier sommet de la Terre. Donc, il y a pour la première fois plus de 100 chefs d'État et de gouvernement qui sont rassemblés. C'est probablement la plus importante parce que pour la première fois, on donne une sorte de programme pour le futur qu'on a appelé des agendas 21. Donc, et d'ailleurs, ici, nous dépendons de l'agenda 21 d'Île-de-France qui a été signé par la région. Donc, avec, sur le volet social, le volet économique et le volet environnemental, un certain nombre d'actions qu'on doit mener. Et donc, cette conférence de Rio, pour la première fois, les pays se sont mis d'accord sur des actions en commun pour travailler ensemble. Alors, le sommet de Rio, ces sommets de la Terre ont lieu tous les 10 ans. Mais à l'intermédiaire, donc à chaque année plus 10, il y a un sommet de la Terre. Donc le prochain aura lieu en 2012. Le premier, c'était Rio 92. Le second, c'était à Johannesburg en 2002. Et donc en 2012, il y aura le suivant. Et puis tous les 5 ans, il y a des conférences intermédiaires pour savoir un petit peu où on en est. Alors celui dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le protocole de Kyoto. Donc pour la première fois, les États s'engagent à respecter l'environnement. Ils se donnent des objectifs, donc avant 2012, de réduire de 5% les gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère. Et tous les pays signataires donc, se sont engagés à réduire de 5%. Alors, bémol, le plus gros pollueur du monde, les États-Unis, n'ont pas signé. Donc on compte notamment sur l'administration américaine avec Obama, puisqu'il s'est engagé à signer et à ratifier. Parce qu'il y a la signature, mais il y a la ratification. Donc c'est s'engager ensuite à faire après avoir signé. Donc on s'engage à ce qu'il ratifie donc, le protocole de Kyoto. Alors, juste un petit, deux petites informations pour passer sur cette diapo. D'abord, 2007, création d'un ministère de l'écologie et du développement durable. Et deuxième information qui va vous intéresser aussi, c'est la conférence de Stockholm. Donc la conférence de Stockholm, elle était intéressante parce qu'il y a ce qu'on appelle le Club de Rome, qui est un club de scientifiques à qui on avait demandé de faire un rapport sur ce qui nous attend dans le futur si on continue à produire et à utiliser les ressources telles qu'on le fait aujourd'hui. Donc ce rapport qui s'appelait « Halte à la croissance », c'était en anglais, il proposait un certain nombre de scénarios. Et le pire des scénarios parlait de l'état de la Terre en 2100. Et il disait tout simplement qu'à partir de 2080, très probablement, il y allait avoir une augmentation subite du taux de mortalité sur Terre, qu'on allait de mourir de... Enfin, ce ne serait pas une guerre, mais quasiment, puisque à partir de 2060-2070, on n'aurait plus un accès aux ressources. Les humains ne se seront pas préparés à la pré-pétrole. Et donc, on allait se retrouver dans une situation... si vous avez le temps de lire et d'aller sur Internet parce que vous êtes un peu curieux, ça ressemble complètement à Mad Max. Donc c'est des sortes d'îlots comme ça où les gens survivent comme ils peuvent. On est dans un contexte complètement désertifié, il n'y a plus de forêt, les gens vivent en dessous de la terre. Enfin voilà, ils sont dans une perspective. C'était dans les années 70 et entre-temps, on voit qu'en fait, un certain nombre de choses qui paraissaient folkloriques à l'époque sont en train de se vérifier. Donc j'espère qu'en 2100, on ne sera pas dans ce contexte, mais c'est inquiétant. Alors, réalité quotidienne. Donc, une image dont il faut parler, qui est souvent occultée, c'est celle des pays du Sud. Je vous l'ai donné en intro en disant qu'il y a 850 millions de personnes aujourd'hui qui, sur Terre, souffrent de la faim. Et notamment, l'image de gauche, c'est une image de la famine qui a commencé à avoir lieu dans les années 70. C'est une image qui date des années 75. Et celle de droite, pour moi, est beaucoup plus récente, elle date de 98. Et donc, le sujet de la faim dans un certain nombre de pays du Sud continue à être très importante. Et vous allez le comprendre quand on voit l'écart entre pays pauvres et pays riches. Donc, pays pauvres et pays riches, vous voyez que le tiers des pays le plus pauvre, qui est tout en bas, n'a quasiment pas évolué entre 1970 et 1995, alors que les pays les plus riches, le tiers le plus riche, vous voyez comment on passe d'à peu près 12 000 dollars, donc le PIB par habitant en 70, pardon, jusqu'à quasiment 18 000 dollars. Donc ça vous montre un peu la différence qu'il y a aujourd'hui entre les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, fort heureusement pour nous, de ce côté de la Méditerranée, voilà, il y a une prise de conscience. Il y a notamment un certain nombre de personnalités qui s'engagent. On aurait pu en mettre d'autres. Mais voilà, quelques-unes qui sont assez connues. Vous connaissez tous Nicolas Hulot. Donc, je vous ai d'ailleurs amené son petit livre pour la Terre, qui est là, que je peux vous faire passer. Il avait remis ça donc, au moment des élections présidentielles. Donc Nicolas Hulot, qui est très connu, qui est très engagé, qui a fait ce qu'on a appelé ce pacte écologique. Celui qui ressemble au Père Noël en bas, vous le connaissez peut-être aussi. Hubert Reeves, qui est un astrophysicien très célèbre, avec son accent toujours en roulant les airs, qui est aussi très engagé sur la protection de l'environnement. Jamel Debbouze, que vous connaissez sans aucun doute. Et puis, celui qu'on aurait pu citer, c'est Yannick Noah également. Yannick Noah est très engagé sur la question de l'environnement. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Alors, si on commence par le premier volet, ce que j'ai appelé l'économie et le développement durable sur les trois sphères dont on a parlé tout à l'heure, le volet économique, c'est véritablement sur ce volet d'essayer de réconcilier la manière de faire des affaires aujourd'hui, la manière de faire du commerce, de gagner de l'argent, avec une vraie équité sociale et un vrai respect de l'environnement. Alors, commerce éthique, commerce équitable. Est-ce que vous connaissez la différence entre le commerce éthique et le commerce équitable? Qui a une idée? Non? Alors, commerce éthique, c'est beaucoup plus lié, pour simplifier, à ce qu'on pourrait appeler le respect des droits de l'homme. C'est comment la plupart des grandes entreprises qui travaillent aujourd'hui en France, en Europe et dans le reste du monde, notamment dans des pays où le niveau de vie est très faible, de s'engager à ne pas faire travailler des enfants, à donner un certain nombre d'hygiène de vie correcte, notamment dans des secteurs, par exemple, du BTP, de faire en sorte que s'il y a des dortoirs, qu'il y ait des sanitaires, etc., etc. Voilà, c'est plutôt ce volet éthique, j'allais dire, respect des droits humains, sanitaires, hygiène, etc., etc. Le commerce équitable, c'est beaucoup plus l'idée d'une justice sociale, de rééquilibrer les déséquilibres qu'il y a dans le monde. Et pour vous illustrer ça, je vais vous parler de Max Avelar. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom. Max Avelar, ce n'est pas une marque, ce n'est pas un produit ou ce n'est pas une entreprise, c'est une association, loi 1901. Donc cette association de solidarité internationale, donc c'est le représentant français d'une fédération internationale qu'on appelle FLO, donc Fair Trade Labeling Organization. Donc ce sont des organisations qui travaillent sur les trois volets du développement durable en faisant en sorte de se mettre en relation notamment avec des petits producteurs de café, de thé, de coton, etc. et d'essayer de les protéger en créant des labels, en les encourageant à se monter en coopérative. Et donc cette organisation internationale est présente dans 21 pays, donc les États-Unis, l'Europe, le Mexique, l'Afrique, le Japon, etc. Et Max Avelar, en France notamment, est le représentant. Alors pour vous expliquer clairement un des impacts les plus importants du développement du commerce équitable, c'est, vous le voyez en bleu et en vert, la fluctuation des cours du café entre 1995 et 2006. Vous voyez la courbe verte qui monte et qui descend. Et à partir de la rencontre entre la courbe bleue et la courbe verte, vous voyez comment tout d'un coup le cycle devient linéaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, donc les coopératives qui ont adhéré donc au label commerce équitable Max Avelar, on leur garantit un prix du café qui n'est pas variable. Donc si le prix monte, ben, ça monte aussi, vous le voyez en bleu, quand la pyramide monte vers le haut. Et quand le prix descend, vous voyez que le tarif reste constant. On se met d'accord pour un minimum qu'on va donner aux paysans. Donc ils ne se retrouvent plus avec des moments de crise parce qu'on n'a pas pu leur payer le tarif du café ou à travailler à perte. Donc ça, c'est une chose très importante. La décomposer, par exemple, sur le prix d'une banane, vous voyez comment dans la banane conventionnelle qui coûte 2 euros le kilo, il y a 0,12 centimes qui revient au producteur. Le coût de transformation, d'exportation, etc., 38 centimes. Et finalement, 1,49€ pour l'ensemble du packaging, du transport, etc. Vous voyez que sur le label du Max Avelar, on garantit aux producteurs, montés en coopérative, 31 centimes d'euros, qui ne varient pas. On lui donne toujours ces 31 centimes, donc il est capable de nourrir sa famille, etc. Et le deuxième grand avantage du développement durable, c'est qu'au-delà de garantir un prix qui ne fluctue pas en fonction du marché, c'est d'encourager les coopératives de paysans à travailler sur la protection de l'environnement et à mettre de l'argent dans des projets durables, création d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires, etc., qui garantissent le développement de la région où ils se trouvent. Alors, pour vous illustrer ça de manière plus ludique, je vous ai amené, alors je suis obligé de bidouiller un peu, je vous ai amené quelques petits clips sur le développement durable que l'on va regarder ensemble. Alors j'espère que le son... Ah, j'ai regardé. Bon, vous n'entendez rien.
Ton boulot, ça va?
Bon.
Mais c'est intéressant, non?
Ouais.
Et ton petit copain, comment il s'appelle déjà?
Il s'appelle plus.
Ah bon? Et...
On va le repasser, je vais essayer d'éteindre parce que.
Oh là, mais je sais pas quand j'ai mis ton là-dessus. Tu veux un café?
Non, le café ça m'énerve.
Eh, ça serait dommage. Tu veux autre chose? Un café serré, s'il vous plaît. Comment il s'appelle déjà?
Il s'appelle plus.
Ah bon?
Largué.
Ah. Et
quoi?
Mais je sais pas, t'as rien à me raconter? Oh là, mais je sais pas, quand j'avais ton âge, j'avais des envies, j'avais des centres d'intérêt. Et pas, je voulais que le monde bouge, quoi.
Tu parles? Vous vouliez pas changer le monde, vous vouliez que le monde vous ressemble, c'est pas pareil. Puis alors moi, vos trucs de politique, de dictature, du prolétariat, tout ça, mais je m'en fous. Tout ce que vous avez fait, c'est faire la morale à tout le monde. D'ailleurs, tu continues.
Et qu'est-ce que tu fais pour changer le monde, toi?
Moi, je mange des bananes. Et le monde, il change. Tandis que toi, avec ton café, tu sais ce que tu fais? Regarde. Pablo, il plante, il cultive, il paie les intermédiaires et hop, voilà ce qu'il lui reste.
Mon café.
Tandis qu'avec du café équitable.
Équitable.
Ben Pablo, il gagne mieux sa vie. Il envoie ses gosses à l'école, il préserve son environnement.
Ah, t'as raison, ça t'énerve le café.
Ah non, mais le chocolat, c'est pareil. Celui-là, là, de chocolat, c'est zéro pour tout le monde. Pablo, il gagne rien avec ça. Tandis qu'avec du chocolat.
Équitable.
Bien. Et ben Pablo, il travaille dans la sécurité, il a accès aux soins.
Mais c'est qui Pablo?
Non, mais je dis ça comme ça. Et les habits?
Ah non, non, pas les habits, ça va, j'ai compris.
Si, les habits, le coton, là, regarde. Et hop, à cause de la bourse, hop, à cause des spéculateurs, et hop. Ah, bah dis donc, t'es pas mal comme ça.
Ah, tu trouves?
Ah ouais, ouais. Bon, ben moi, faut que j'y aille. T'aurais pas un billet pour faire les courses, justement?
Équitable.
Of course.
Alors, un deuxième.
Et ben, plus deux. 11. 11. Et 12 plus 2. Aha.
14.
Oh, bravo. Qu'est-ce que je te mets pour ton goûter demain? Des gâteaux? Ah non, pas de gâteaux. Attends, une banane. Tu veux une banane?
J'aime pas les bananes.
Oh non, mais. C'est très bon, les bananes. C'est plein de vitamines. De minéraux, de potassium. Indispensable potassium. Tu la vois, cette banane?
Bah ouais.
Eh ben, regarde-la bien. Parce que t'en as jamais fêté comme ça. Cette banane, je te ferais dire, a été cueillie en République dominicaine. Hein? Par les parents d'un enfant de ton âge. Javier.
Javier?
Ouais. Et ils nous l'ont envoyé exprès, tu sais pourquoi?
Bah non.
Eh ben pour que leur petit garçon puisse aller à l'école, s'acheter des chaussures, se faire vacciner, dormir sur un matelas, j'en passe. Tu saisis? Ça s'appelle le commerce équitable.
C'est les parents de Javier qui me l'ont envoyé de République Dominicaine exprès pour que je la mange pour qu'il puisse aller à l'école.
L'école, c'est nul.
Il pourra aussi se faire vacciner.
Ah, j'aime pas la piqûre.
Et il pourra aussi s'acheter des chaussures.
Pourquoi? Il n'y a pas de chaussures?
Bah non, il est pieds nus tout le temps. Ça lui fait pas mal de rester pieds nus?
Bah si.
veut dire quoi, quittable?
Donc, il est... Avec Roman.
Avec Laura. Coliba. Ferdinand.
Alors, comme on n'a pas beaucoup le temps, il y en avait un troisième, mais bon, peut-être que je vous le passerai à la fin, s'il n'y a pas de questions. On a le temps, oui, on a le temps. Bon, allez. Alors, c'est un peu discret. Hein. En Afrique, et on va voir comment... Là, il y a les travailleurs de la coopérative et vous allez voir les enfants dans l'école qui est financée par une partie des dons du commerce équitable, enfin des gains. Donc voilà, ça c'est l'école. Voilà. Donc c'est des clips qui sont faits, que vous pouvez retrouver sur le site de Max Havelaar, Commerce Équitable. Voilà, qui explique assez bien donc la démarche du commerce équitable. Alors je vous ai amené, parce que la théorie c'est bien, la pratique c'est encore mieux, quelques produits que je vais faire passer. Il y a du chocolat à la fin que vous pourrez goûter. Ah. Alors là je vous fais passer quelques produits... vous les faites passer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez des cookies du Ghana. Vous avez du thé de Chine. Du café d'Haïti et du Guatemala également. Du riz basmati qui vient d'Inde. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez le label du commerce équitable. Et puis, vous avez du chocolat qui vient d'un peu partout, du Pérou, etc., que vous allez goûter tout à l'heure. Donc voilà, pour clôturer sur le commerce équitable, donc vous voyez comment les trois piliers du développement durable, l'économie, le social et l'environnemental, sur les trois piliers, donc le développement durable, notamment les coopératives, elles sont encouragées par le label à travailler sur l'ensemble des volets, donc de respecter la nature, de respecter donc les volets liés à l'économie, parce que on leur verse donc les subsides de leur travail, mais également qu'elles aillent financer des caisses pour payer des écoles, comme vous l'avez vu, etc. Alors, environnement toujours. Donc, l'effet de serre. Vous avez tous entendu parler des gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que l'effet de serre ? C'est un phénomène naturel qui fait en sorte qu'un certain nombre de gaz, alors notamment pour la couche d'ozone, vous avez entendu parler de la couche d'ozone, donc en Antarctique, il y a aujourd'hui un trou dans la couche d'ozone et qui est dû à ce qu'on appelle les CFC, les chlorofluorocarbones. Donc c'est ce qu'on retrouve dans un certain nombre de sprays, il y en a de moins en moins, donc dans des sprays, dans des climatiseurs, dans des réfrigérateurs. Les gaz à effet de serre, c'est encore différent. Donc c'est un certain nombre de gaz qui montent dans l'atmosphère et qui se condensent et qui font une sorte de pellicule. Je vais revenir. Qui crée une sorte de pellicule, mais bon, je vais rester là-dessus peut-être pour qu'on avance. Ces gaz à effet de serre, donc, entourent la Terre et créent une sorte d'écran qui fait monter la température, donc, sur la surface de la Terre et dans l'atmosphère. Et on a pu mesurer, à cause de ça, le réchauffement climatique. Et notamment, on voit là une image du Groenland en 92 et en 2002. Et vous voyez la taille des glaces et en rose la volumétrie de la fonte au Groenland, ce qui veut bien dire que les températures ont augmenté. Et sur les deux schémas également, vous voyez comment depuis 1860 jusqu'à des perspectives 2100, la température est en train d'évoluer. On pensait initialement, il y a un groupe donc qu'on appelle le GIEC, un groupe intergouvernemental de spécialistes sur le climat, qui estimait initialement que la température allait augmenter entre 0,6 et 1,5. Et en fait, là, les perspectives sont beaucoup plus graves. On pense que la température va augmenter dans les 50 ou 100 années à venir entre 2 et 6 degrés. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le réchauffement climatique va s'aggraver. Un petit schéma pour que vous compreniez. Donc, les rayons qui viennent du soleil, vous voyez comment ils pénètrent sur la Terre. Un certain nombre est avalé donc par la couche terrestre. Un certain nombre est renvoyé dans l'atmosphère. Et ces gaz à effet de serre en suspension, cette zone grise que vous voyez, ça forme une sorte d'effet cocotte-minute. Et donc, ça se condense à l'intérieur et la température augmente. Un autre schéma un petit peu plus précis, là, vous voyez comment voilà, les rayons du soleil, certains sont absorbés par la Terre, d'autres sont renvoyés, mais ceux en rose rebondissent sur cette nappe de gaz à effet de serre. Et donc, ces gaz, c'est majoritairement, malheureusement, les rejets des carburants des véhicules. Donc, il y a de plus en plus de voitures. Et aujourd'hui, l'alternative, malheureusement, elle est encore très floue. On ne sait pas comment on va remplacer les véhicules dits thermiques, donc qu'on a dans les voitures, par une autre énergie possible. Donc, je passe là sur les schémas, mais vous voyez juste sur celui à ma droite, le changement climatique et ses interactions avec les autres problèmes, ce qui vous montre bien comment l'économie, l'environnement et le social sont toujours intriqués dans le développement durable. Donc, vous voyez comment l'augmentation de la température sur la Terre a des impacts à tous les niveaux, parce que ça dégrade la qualité de l'air, parce qu'il y a un appauvrissement de la couche d'ozone du fait de ces gaz qui montent en suspension. Ça a des impacts très graves sur la biodiversité. Je vais vous en parler tout à l'heure. La désertification, notamment dans des pays qui sont notamment les pays subsahariens. Dégradation des sols, insuffisance de l'approvisionnement alimentaire, etc. Et c'est une chaîne sans fin. Alors, une photo qui a été prise dans le Sahel, et vous voyez comment sur ce camion énorme, en fait, il doit y avoir une centaine de personnes probablement, sont en train de fuir un village du fait de la désertification. Donc moi, je les ai appelés les réfugiés climatiques du Sahel, parce que c'est vraiment à cause de l'augmentation de la température que ces zones de désertification sont de plus en plus nombreuses. Et donc les gens sont obligés de remonter de plus en plus vers le nord, et aujourd'hui, malheureusement, dans ces pays, si la température continue d'augmenter, ce sont des gens qui vont de plus en plus vouloir aller vers le nord et donc avec des flux migratoires de plus en plus importants. Alors, quelques pistes pour limiter les gaz à effet de serre, donc les GES. Alors, on parle beaucoup de l'éolien aujourd'hui. La France commence un petit peu à s'y engager. Alors, il y a de l'éolien surtout marin. Donc, on va à peu près entre 100 et 1 km sur les côtes et on installe donc sur le littoral des éoliennes, là vous le voyez, c'est le cas. Donc c'est des éoliennes qui ont été installées dans la mer. Donc pour qu'une éolienne fonctionne et qu'elle soit rentable, il faut à peu près 2 mètres par seconde. Donc on n'a pas ça en Île-de-France par exemple. Donc on l'a en Bretagne, on a des courants marins comme ça sur tout le territoire. Mais aujourd'hui, la France est très en retard sur ce volet, elle commence à l'être de plus en plus. La Hollande, qui est un pays plat et un petit peu plus venteux, s'est déjà engagée, donc ces éoliennes produisent de l'électricité. Et donc ça permet de combler notamment à cette pénurie de pétrole avec l'augmentation qui n'arrête pas de fluctuer. Et si demain le baril de pétrole vient à dépasser, comme ça a été le cas il y a quelques mois, les 80 ou les 90 dollars, ça peut être très très impactant sur l'économie. Alors de plus en plus, on parle aussi des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Donc la Poste est en train de remplacer tout son parc. Elle va recevoir 80 000 véhicules hybrides ou électriques. Donc vous le voyez, parce qu'en général, c'est précisé. Il y a des véhicules municipaux, des véhicules de la Poste, des véhicules d'entreprise. En général, c'est précisé, même dans certains bus. C'est écrit, je roule au biocarburant, avec des carburants qui ne sont pas des carburants classiques, mais des carburants à partir de végétaux. Donc là, vous avez un véhicule électrique de chez Matra, qui est 100% électrique, qu'on retrouve de plus en plus dans les municipalités, alors plutôt du sud, mais également en Île-de-France, on commence à voir ce type de véhicule aussi. Alors, petite note pour vous prouver, s'il le fallait, qu'il y a une preuve du réchauffement climatique, avec un petit peu d'humour. Vous voyez qu'entre 1900 et 2006, on a un petit peu changé nos manières de nous habiller. Alors, empreinte écologique, toujours sur l'environnement, on est capable aujourd'hui de mesurer votre impact sur l'environnement avec ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Donc, l'ensemble des choses que vous consommez, l'énergie que vous consommez, on peut, grosso modo, pour simplifier, la convertir en hectares de terre consommables pour votre bien-être. Donc, je vous renvoie tous à ce site qui est bien fait, c'est le site de Agir21. Donc, vous pouvez calculer en rentrant vos modes de vie assez basiques. Donc, vous dites votre âge, ce que vous avez l'habitude de manger, si vos parents ont une voiture, etc., etc. Et on va vous donner votre empreinte écologique. Alors là, sur la diapositive, vous voyez comment... Alors, c'est écrit peut-être un petit peu petit, mais sur le côté droit, on voit nourriture, transport, habitation, etc. Et là, ça se mesure en terrain de football. Par contre, si l'ensemble des habitants de la Terre avaient le même niveau de vie que nous, vous voyez qu'il faudrait, vous avez le chiffre en bas, 2,64 planètes pour subvenir aux besoins de tous les habitants sur Terre aujourd'hui. Autant dire que ça ne suffirait pas. Donc ça, c'est un truc intéressant à faire. Faites-le chez vous lorsque vous rentrez sur Agir21 ou tapez sur Google ou sur un moteur de recherche, empreinte écologique, et ça vous donnera une idée. Alors, pour vous donner un exemple aussi de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, le réchauffement climatique et notamment l'usage des pesticides, par exemple, c'est probablement ce qu'on est en train de découvrir, c'est la fin des abeilles. Donc les cheptels d'abeilles sur l'ensemble de la surface terrestre aujourd'hui sont en train de disparaître. Donc ça aussi entre 20% et 80 à 90% aux États-Unis. Et on ne connaît pas aujourd'hui l'explication de la disparition des abeilles. Les abeilles sont un très très vieil insecte. On a retrouvé des dessins rupestres qui représentaient des abeilles. On sait que pendant l'Antiquité en Égypte déjà on consommait du miel. Et aujourd'hui, le cheptel des abeilles, ça remonte depuis à peu près une dizaine d'années, commence à disparaître à la surface de la Terre. Alors il y a différentes explications. La plus probable, c'est les pesticides. Donc l'usage des pesticides aurait un impact sur le système nerveux des abeilles qui s'orientent par rapport au soleil. Et donc elles ont de plus en plus de mal à s'orienter, à trouver leur nourriture. Et donc des études comportementales qui ont été faites sur des cheptels d'abeilles considèrent qu'en fait, à partir du moment où les abeilles savent qu'elles ne peuvent plus se nourrir, elles suivent la reine et elles partent se suicider collectivement. Elles restent dans un endroit et elles disparaissent. Donc, c'est assez inquiétant. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable de l'expliquer. Un deuxième facteur, ce serait peut-être l'augmentation des températures. Et puis, la troisième, ce serait des modifications du champ électromagnétique qui auraient aussi un impact sur leur système nerveux et elles auraient de plus en plus de mal à s'orienter. Alors, Einstein, pour la petite histoire, a dit, parce que l'abeille est un animal qui a été beaucoup étudié, Einstein a dit au sujet des abeilles que si les abeilles disparaissaient, il donnait 5 ans à l'humanité. À tel point que l'abeille a une place dans le système écologique, dans l'écosystème, et donc l'impact, parce que si l'abeille disparaît, elle va faire disparaître avec elle l'ensemble des animaux qui en vivaient, et on rentre dans la chaîne de l'écosystème. Donc, très belle photo avec des abeilles qui butinent. Alors, très rapidement, sur les éco-gestes. Covoiturage. Donc, les éco-gestes, je vous ai apporté quelques petits éco-gestes qu'on peut faire au quotidien et qui touchent, à mon avis, je pense, la plupart d'entre vous. Voilà, alors je vous ai mis une petite photo sur du covoiturage. Ne faites pas la même chose, mais covoiturez. Alors, quelques éco-gestes. Il y a des petites choses que vous pouvez faire dans votre vie quotidienne. Alors, je vous les ai mis au tableau sur l'énergie, sur le papier, le carton, les déchets, sur l'eau, sur les carburants. Mais je pense que des choses qui vous intéressent directement, vous, vu votre âge, c'est peut-être tout ce qui touche déjà aux piles. Vous êtes, à mon avis, très amateur de MP3 et d'autres appareillages du même type. Alors sur les piles, vous pouvez faire quelque chose de très simple, c'est d'aller déposer vos piles usagées dans des conteneurs qui sont destinés à cet effet. Vous en avez peut-être d'ailleurs au lycée, je ne sais pas. Et de privilégier par exemple d'utiliser des piles jetables plutôt que des piles que vous achetez systématiquement, piles jetables que vous pouvez réutiliser avec des accumulateurs. Il y a de plus en plus de piles en fait qui sont rechargeables, et en fait l'avantage des piles rechargeables, c'est que elles n'ont pas, contrairement aux piles classiques, un certain nombre de polluants qui se trouvent à l'intérieur et qu'il faut traiter et qui coûtent très cher, notamment du nickel cadmium ou des métaux lourds qui polluent donc le sol notamment et qui entraînent des pollutions importantes. Sur l'hygiène également, des petites choses que vous pouvez faire, lorsque vous pouvez le faire, faites-le, de privilégier plutôt une douche qu'un bain. En moyenne, une douche, c'est entre 100 et 150 litres, voire 200, alors qu'une douche, c'est entre 8 et 15 litres à peu près. Sur l'eau, même chose, on a l'habitude et on le fait tous, et puis c'est un vrai exercice quotidien, de ne pas laisser l'eau couler, par exemple, lorsque vous vous brossez les dents. Lorsque vous brossez les dents, c'est entre 1 et 10 litres. Le temps, si vous brossez sur une moyenne de 3 minutes, c'est très rapidement beaucoup d'eau dépensée. Alors, préférez le savon au gel pour tout ce qui est retraitement des déchets. Sur l'électricité, même chose. Vous avez tous des chargeurs. Si vous laissez un chargeur branché alors qu'il n'y a pas votre appareillage au bout, votre téléphone, votre MP3 ou votre iPhone, un chargeur qui reste branché toute la journée, c'est à peu près 3 à 5 heures d'utilisation de votre appareil, même s'il n'est pas branché. L'équivalent en électricité, par exemple. De ne pas laisser la lumière allumée. Voilà, il y a un tas de petits gestes que vous pouvez faire dans la vie quotidienne, en privilégiant ce que j'ai appelé les trois règles du recyclage et des éco-gestes. C'est la règle des trois R, donc de recycler, de réutiliser, donc on le voit beaucoup dans les magasins notamment. Il y a de plus en plus de magasins qui ne vendent plus de sachets, on vous vend uniquement des sacs réutilisables, qui sont souvent biodégradables, etc. Donc de réduire également. Lorsque vous jetez vos déchets dans les poubelles, notamment des bouteilles, par exemple de soda, etc., d'avoir le réflexe de les écraser et de remettre le bouchon. Donc voilà, réduire, recycler, réutiliser, trois petites règles que vous pouvez adapter, sachant que lorsqu'on le fait, aujourd'hui en France, en moyenne, vous avez à peu près 400 à 500 kilos de déchets par an par habitant, et que vous pouvez le réduire de moitié juste en réduisant, par exemple, la plupart de vos déchets, de privilégier quand vous achetez des produits manufacturés, notamment des biens qui n'ont pas de suremballage. Vous achetez un paquet dans lequel il y a encore des paquets, donc de voir tous ces petits gestes. Alors une petite action qui était assez sympa, un beau petit geste écolo, c'est celui des bouchons. Alors vous avez peut-être vu ça, alors de plus en plus de maternelles, d'écoles primaires le font. Ça s'appelle les bouchons d'amour, c'est une association qui existe dans quasiment tous les départements aujourd'hui. Donc en récupérant vos bouchons de lait, de soda, d'eau, de jus de fruits, donc vous mettez un petit bac à la maison, et puis dès que vous avez un petit bouchon, vous le conservez. Vous tapez sur Google ou autre part pour trouver le point de collecte de cette association. Donc Bigard est là parce que c'est le parrain de cette association. Donc cet asso, cette entreprise, c'est une association qui s'appelle Bouchons d'Amour, qui revend ses bouchons à une entreprise qui se trouve en Belgique. Cette entreprise, en fait, produit des pales et des palettes et des étalages de magasins en plastique, qui était initialement fait en bois. Donc l'impact sur l'utilisation du bois est réduit, et ça permet notamment à des forêts qu'on appelle forêts autogérées de revendre du bois qui se renouvelle, et de privilégier des palettes qui sont en plastique recyclées via les bouchons. Donc cette association, lorsqu'elle revend ses bouchons, alors c'est à peu près 150 ou 250 euros la tonne, ça permet, spécifiquement pour cet asso, il y en a d'autres qui font autre chose, mais d'acheter des matériels pour les personnes handicapées. Donc ça va du chien d'aveugle à l'oreillette, en passant par du matériel handisport, etc. Donc voilà, c'est une toute petite action qui est très sympa, que vous pouvez faire, et qui existe aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits. Alors dirigeons-nous tout doucement vers la conclusion, comme on dit à l'Assemblée nationale. Donc les trois piliers, rappelez-vous, écologie, sociale, environnementale, l'écologique, l'économique, le social. Donc, un petit mot sur l'entreprise dans laquelle je travaille, pour vous montrer un exemple du déploiement du développement durable et ce que ça peut donner dans une entreprise. Voilà, je suis dans une grande entreprise du CAC 40, très importante, et sur la thématique du développement durable, il y a 7 actions qui ont été mises en place. Alors établir des relations de clients, des relations de confiance avec les clients fondées sur l'écoute et la transparence. C'est plus un client qui me donne de l'argent et à qui je fournis une prestation ou un produit. C'est j'écoute un client et j'essaie de voir ce que je peux faire pour l'encourager à être plus écolo s'il est engagé dans une démarche écolo, à travailler ensemble sur l'agenda 21 si on est par exemple dans la région Île-de-France ici, parce qu'on est tous les deux tenus par l'agenda 21. La prise des risques dans la vie quotidienne de l'entreprise, être leader en matière de sécurité et de protection de la santé. Des personnels qui viennent travailler dans l'entreprise, ce ne sont pas que des personnels, de les encourager à avoir une conduite sûre dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, même pour leur famille. Donc c'est également des choses intéressantes. Voilà, un certain nombre d'actions qui ont été menées, notamment une sur laquelle je travaille en particulier, parce que je suis chargé de travailler sur tous les volets sociaux du développement durable, c'est de participer à la vie économique et sociale des territoires où nous sommes implantés. Donc de voir comment sur l'ensemble des territoires, notamment pas mal les banlieues, de voir comment on peut encourager un certain nombre de projets qui sont faits en banlieue et d'encourager le recrutement de personnes diversifiées, plus diversifiées que l'habitude, que l'entreprise avait l'habitude. Alors, pour finir, un proverbe que j'ai pioché, mais je ne sais plus où. Donc, la mer est composée de gouttes d'eau. Et vous êtes une de ces gouttes d'eau. Donc, voilà. Comment travailler ensemble, tous, aujourd'hui, et puis faire chacun dans votre coin un petit peu, un petit truc, d'économiser l'eau, d'essayer de privilégier de faire attention à votre usage de l'énergie, à votre usage, à vos déchets, enfin tout ce qu'on vient de raconter, et puis de voir comment ça peut très rapidement impacter, parce que à partir du moment où on est plusieurs, tout de suite ça peut faire beaucoup. Alors voilà, mon contact également, si d'aventure vous vouliez avoir plus de questions, parce que là c'était un survol un petit peu rapide, et je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.